Face au temps troublé et agité dans lesquels nous sommes, il m'a paru bon, comme je le disais, de commencer une série de messages basés sur ce livre d'Habacuc. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce livre est très contemporain dans son application. Nous ne savons presque rien d'Habacuc, sinon qu'il n'est un prophète. Mais ce prophète n'était pas comme les autres prophètes. Dans le sens où, en général, un prophète transmet un message de Dieu au peuple. Alors qu'Habacuc, lui, bien qu'il soit prophète, il s'adresse à Dieu au travers de questions, questions auxquelles Dieu lui répond. Et c'est ce qu'on va voir dès ce premier chapitre. Donc, lisons Habacuc 1. Sentence. Ce qu'Habacuc, le prophète, a vu. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Ravages et violences sont devant moi. Il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais, parce que le méchant assaille le juste. C'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car une œuvre est en train de s'accomplir, que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je suscite les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux, qui traverse de vastes pays pour prendre possession de demeures qui ne lui appartiennent pas. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et sa suprématie. Ses chevaux sont plus rapides que des léopards, plus mordants que les loups du soir. Ses chars se déploient, ses chars viennent de loin. Il vole comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout entier, il arrive pour la violence. Son visage tendu vers l'avant, il amasse des captifs comme du sable. Lui, il se moque des rois. Il rit des princes. Il se rit de toute forteresse. Il amoncelle de la terre et il la prend. Alors un souffle passe et s'en va. Il se met en tort, lui dont la force est pour son Dieu. Mais toi, n'es-tu pas dès le temps jadis, Seigneur, mon Dieu, mon Saint? Tu ne meurs pas. Seigneur, tu l'as établi pour le jugement. Mon rocher, tu l'as institué pour châtier. Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Tu traites les humains comme les poissons de la mer, comme les bestioles qui n'ont pas de maître. Tous, il les enlève à l'hameçon, il les tire dans son filet, il les recueille dans sa nasse. Alors il se réjouit, il est dans l'allégresse, alors il offre un sacrifice à son filet, de l'encens à sa nasse, car par eux, sa part est grasse, sa nourriture copieuse. Alors va-t-il vider son filet et massacrer des nations constamment, sans épargner personne? Ce livre d'Habacuc commence par une sacrée question. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand, Seigneur? Nous allons simplement aborder ce premier chapitre au travers de ce qu'Habacuc a vu, de ce qu'il a fait et de ce qu'il a entendu de Dieu. Avec comme conclusion ce que cela signifie, ce que le prophète a vu, ce qu'il a fait et ce qu'il a entendu de Dieu. Commençons donc tout d'abord par ce qu'Habacuc a vu. Au verset 3, il dit « Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ?» Ce qu'exprime Habacuc est vraiment fort. « Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ?» Ce qu'il exprime ici, c'est « Pourquoi m'as-tu mis dans une position où je ne vois que le mal, où je ne vois que ce qui me peine, où je ne vois que ce qui me cause un chagrin continuel. » En Ecclésiaste 9, le verset 10-12, nous invite avec pertinence à être réaliste. Il nous invite au réalisme. Il dit ceci, « L'être humain ne connaît pas plus son temps que les poissons qui sont pris au filet pour leur malheur, ou que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont attrapés à leur néfaste qui s'abat sur eux à l'improviste. » Mais quel était le contexte de vie d'Habacuc dans sa génération ? Juste avant lui se trouvait le bon roi Josias, qui dirigeait de manière heureuse le territoire de Juda. C'était un bon roi. Et son règne laissait entrevoir pour le futur un avenir paisible, tranquille, radieux même. Mais sauf que, ses fils qui lui succédèrent furent de mauvais rois. Et ce qui se passa, c'est qu'une corruption morale commença et gangréna la société. Et l'injustice devenait de plus en plus criante. C'est pourquoi, avons-nous lu au verset 4, « La loi est paralysée, elle n'est pas effective, et l'équité ne s'impose jamais. » C'est le constat. La loi de Dieu n'était plus respectée et pire, elle était même bafouée. Et de plus, dans le contexte, il y avait des menaces militaires à l'extérieur qui se faisaient jour. Et c'est ainsi que maintenant, Habacuc et ses contemporains vivaient des temps mauvais, vraiment mauvais. Et ce que le prophète a vu, ce n'était pas seulement ces temps mauvais, mais aussi que Dieu semblait, j'ai bien dit semblait, absent, comme n'intervenant pas. Et cela transparaît dans ces premiers versets, les versets 2 à 4 que nous avons lus. Seigneur, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne fais rien dans le contexte? Pourquoi est-ce que tu tolères, Seigneur, tout ce qui nous arrive? Pourquoi es-tu absent? Pourquoi est-ce que tu nous abandonnes là? Nos sociétés, surtout occidentales, vivent dans l'illusion que les choses doivent aller de mieux en mieux au fil du temps qui passe. J'ai bien dit illusion. Nous pouvons vivre de bonnes ou de mauvaises années. Mais nous supposons implicitement que dans 5 ou 10 ans, par exemple, les choses vont s'arranger. Que la vie de nos enfants ou de nos petits-enfants va être meilleure que la nôtre au fil du temps qui passe. Et puis, face au dérèglement climatique, eh bien, la révolution verte va nous tirer d'affaire. La technologie, avec ses progrès, va nous sauver de beaucoup de choses. Et quand vient le temps des élections présidentielles, nous le savons, certains vous vendent du rêve à l'appel. Tout va aller mieux, votez pour moi. Mais je me dois de le dire, tout cela n'est pas vrai. Tout cela n'est pas vrai. Pas si loin que nous, dans les années 1950, le prédicateur Lloyd Jones a sorti ce livre d'Habacuc pour prêcher. Parce que les gens en Grande-Bretagne, en Europe et aussi dans d'autres parties du monde, eh bien, vivaient eux aussi des temps franchement mauvais. Oui, la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'était pas très loin derrière, mais déjà la guerre du Vietnam éclatait. Et puis les tensions liées à la guerre froide allaient croissante. Et les gens pensaient, pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi ces temps si mauvais? Pourquoi Dieu laisse-t-il tout cela arriver? Et Lloyd Jones avait dit ceci alors, si vous comprenez ce livre d'Habacuc, vous ne seriez pas surpris par ce qui arrive. Vous auriez été prêt. Et la question donc, sommes-nous prêts face à ces temps mauvais que nous traversons tous dans cette crise du Covid? Et avec ces multiples débordements plus que sanitaires. Sommes-nous comme Habacuc présentement, dans ce qu'il a vu des temps mauvais, et puis dans ce qu'il a cru voir, Dieu est absent, il ne fait rien. Ça, c'est le premier point, ce qu'Habacuc a vu. Maintenant, qu'a-t-il fait? Comment a-t-il réagi? Nous avons vu au verset 3 qu'Habacuc a fait preuve d'audace en parlant de la sorte à Dieu. « Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ?» Mais au verset 12, il va encore plus loin. Mais toi, n'es-tu pas dès le temps jadis, Seigneur, mon Dieu, mon Saint? Tu ne meurs pas. Quand il dit « n'es-tu pas », c'est comme si littéralement Habacuc prend Dieu à partie. C'est aussi fort que cela. Et Habacuc est à deux doigts de dire cela au travers de ce qu'il exprime au verset 12. « Je croyais que tu étais infini. » Je croyais, Seigneur, que tu étais ce Dieu grand, ce Dieu sage, ce Dieu éternel, mais tu ne l'es pas, regarde. Et pourquoi le prophète a-t-il parlé ainsi? Eh bien, parce que Habacuc est vraiment troublé dans le contexte dans lequel il se trouve. Et il est même angoissé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au travers de ces versets 2 et 4, il exprime ceci. « Pourquoi, Seigneur, laisses-tu le mal et l'injustice régner? Regarde ton peuple. Regarde ce que nous vivons, Seigneur. Tu es censé apporter le salut d'Israël dans le monde. Mais tout est corrompu. C'est le chaos. Seigneur, ça chavire, on prend l'eau de partout. » Et qu'est-ce que Dieu répond dans les versets 5 à 11? Eh bien, Dieu dit, « Je vais faire sortir, surgir les Babyloniens. Je vais faire surgir le peuple le plus impitoyable, le plus sanguinaire que le monde ait jamais vu. Ils vont venir et ils vont venir écraser et conquérir ton pays. » Et Habacuc réplique quelque part, « Quoi, tu appelles ça une réponse? Je viens de me plaindre. Pourquoi laisses-tu régner le mal et l'injustice? Et ta réponse est, « Attends de voir que je vais envoyer plus de mal et plus d'injustice. » C'est ce que je vais faire. Et Habacuc est vraiment tout prêt de dire, « Mais Dieu, ça ne va pas. » C'est la première chose qu'il a fait. Habacuc pose des questions, il se débat avec ses doutes parce qu'il est angoissé, et il en appelle à Dieu. Tant il est comme abasourdi, à la fois par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Mais sa réaction est typique du vrai croyant. Et si dans le contexte dans lequel nous sommes, vous réagissez comme Habacuc, eh bien soyez rassurés. Mais toi, verset 12, n'es-tu pas dès le temps jadis, Seigneur, mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas. Seigneur, tu l'as établi pour le jugement, mon rocher, tu l'as institué pour châtier. Comme le dit le pasteur Timothy Keller, qui est une bonne source d'inspiration, Habacuc est dans une lutte inconditionnellement fidèle à son Dieu. Et ça, c'est remarquable. À aucun moment, il ne lui vient l'idée d'arrêter d'obéir à Dieu, ou d'arrêter de le prier, ou même de se détourner de son Dieu. Et en ce sens, Habacuc n'est pas une personne religieuse qui pourrait se dire « Ce qui compte, c'est de faire tout comme il faut, de ne pas dire un mot de travers, sinon Dieu risque de me tomber dessus. Il vaut mieux que je ne pose pas de questions. » Non. Et Habacuc est encore moins un incroyant qui, lui, pourrait réagir ainsi. Je ne vois pas comment Dieu pourrait apporter quelque chose de bon dans notre contexte. Et d'ailleurs, si Dieu est si bon que cela, pourquoi permet-il toute cette souffrance et ce mal? Non, Dieu ne m'intéresse pas. Je préfère compter sur moi-même, même si ça va mal. Non. Habacuc est dans une lutte inconditionnellement fidèle à son Dieu. C'est comme s'il disait « Seigneur, si je n'arrive pas à comprendre la vie avec toi, comment pourrais-je comprendre la vie sans toi? Où pourrais-je aller, mon Dieu? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi je suis si contrarié. » Et pourquoi la prière d'Habacuc a-t-elle sa place dans la parole de Dieu? Eh bien, pour nous montrer que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Que nous pouvons, en tant que croyants, vider ouvertement tout notre sac devant lui. Et nous pouvons le faire parce que Dieu est le Dieu de l'Alliance. Et dans son amour inconditionnel pour son peuple, il veut nous répondre, même au beau milieu de nos temps mauvais. Et dans ces temps mauvais que nous traversons, frères et sœurs, imitons Dieu, imitons Habacuc, pardon, au travers de ce qu'il a dit. Et cela dans une fidélité inconditionnelle à notre Dieu. Après avoir vu, puis avoir dit, qu'est-ce que le prophète a entendu? Eh bien, il a entendu la réponse de Dieu pour lui, une première réponse, entre les versets 5 à 11. Et ce n'est pas celle que Habacuc attendait, n'est-ce pas, verset 5. Dieu disant, je vais te dire quelque chose que tu ne vas pas croire, ou que tu ne vas pas comprendre. Les Chaldéens vont venir apportant plus d'injustice et plus de violence dans ton contexte de vie. Mais Habacuc entrevoit là qu'il y a un jugement de Dieu. Verset 12, lorsqu'il dit « Seigneur, tu l'as établi pour le jugement, mon rocher, tu l'as institué pour châtier. » À cause de la corruption de son peuple, Dieu châtie ce dernier en faisant en sorte qu'il soit emmené en exil. Et c'est ce qu'Habacuc comprend. Mais pour le prophète, c'est tragique. Dans ce qu'il vit à l'intérieur, c'est le monde à l'envers. Israël, qui était censé apporter le salut au monde, eh bien, s'en retrouve prisonnier. Et pire, agressé, malmené. C'est une véritable calamité. Ecclésiaste 5.1 nous dit ceci. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. » Ça me remet à ma place. Quand nous vivons dans des temps mauvais, nous n'avons que trop tendance à nous focaliser sur notre temps présent. Alors que notre Dieu, lui, poursuit invariablement son œuvre, génération après génération. Et c'est sa perspective à lui qui est la bonne, qui est toujours la bonne. Et au travers de notre texte ce matin, nous pouvons voir maintenant quelque chose qu'Habacuc ne pouvait pas voir dans son contexte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Même au travers de ces événements tragiques, une calamité inouïe, Dieu prédisposait les choses en vue du salut des nations. Pourquoi? Parce que si les Juifs n'avaient pas été emmenés en exil, ils ne se seraient jamais répandus dans les autres nations. Or, quand un retour d'exil s'effectuait, eh bien, pas mal de Juifs restaient dans le pays d'exil. Et c'est ainsi que dans les villes du monde antique, il y avait des synagogues. Il y avait des Juifs, mais aussi des gens qui craignaient Dieu. C'est-à-dire des païens qui ont commencé à étudier la parole de Dieu et à s'intéresser à ce Dieu d'Israël. Et au travers du livre des Actes, et les historiens le confirment, lorsque le christianisme a commencé à se répandre, eh bien les personnes les plus réceptives à l'évangile dans le monde entier à l'époque n'étaient ni les païens, ni les juifs, mais ces païens craignant Dieu, ces personnes qui fréquentaient les synagogues locales, qui avaient déjà entendu parler de ce Dieu-là. Et c'est notamment par ces personnes-là, eh bien, que le christianisme s'est répandu dans le monde. Ça pour dire que même au travers de ces temps mauvais, Dieu allait en sortir un bien, mais en son temps à lui. Et Habacuc, ça, ne pouvait pas le voir. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Et c'est comme si Dieu disait, au travers de nos temps mauvais, ne vous avisez pas de me juger au travers de votre propre contexte, au travers de votre propre perception des choses, au travers de votre propre calendrier. Faites-moi plutôt confiance, car je suis le Dieu fidèle, je suis le Dieu de l'Alliance. Alors pour conclure, qu'est-ce que tout cela signifie? Verset 13, la fin du verset 13. Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Ce qui nous semble impensable, ce qui nous semble inconcevable est pourtant parfois la réalité de Dieu. Et ce qu'Habacuc exprime ici est lourd de sens. C'est lourd de sens prophétiquement. Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant englouti plus juste que lui. Des centaines d'années plus tard, l'apôtre Paul reprendra cette citation d'Habacuc en acte 13. Et alors qu'il prêche l'évangile, il dit ceci dans ce chapitre 13 d'Actes, à partir du verset 26, je vais lire. « Mes frères, hommes de la lignée d'Abraham, et vous autres qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole de ce salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu Jésus. Ils ont méconnu les paroles des prophètes qui sont lues chaque sabbat. Ils les ont accomplies en le jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de l'exécuter. Ayant accompli tout ce qui était écrit à son sujet, ils l'ont descendu du bois et l'ont mis dans un tombeau. Mais Dieu l'a réveillé d'entre les morts. » Un peu plus loin, au verset 37. « Mais celui que Dieu a réveillé n'a pas vu la décomposition. Mes frères, sachez-le donc. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. De tout ce dont vous n'avez pas pu être justifié par la loi de Moïse, de tout cela en lui, quiconque croit est justifié. Prenez donc garde qu'il n'arrive ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous êtes plein de mépris, étonnez-vous et disparaissez. Car moi, je vais accomplir une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez jamais si on vous la racontait. » Habacuc a parlé de manière prophétique. Pourquoi Dieu a-t-il gardé le silence alors que des méchants mettaient injustement à mort son fils bien-aimé? Dieu nous offre le salut au travers de la pire des injustices, de la plus ignoble des souffrances. Pourquoi? Comme l'Habacuc l'a vu aussi, parce qu'il connaissait Dieu, parce que Dieu est saint. Jésus ne pouvait pas simplement nous pardonner nos péchés. Sur la croix, il devait prendre sur lui la juste sentence du Dieu saint face à notre péché, et c'était la mort. Et nous ayant acquittés de cette dette par sa mort et sa résurrection, nous pouvons trouver en lui notre sauveur, notre vrai sauveur. Mais n'oubliez pas, sur le bois de la croix, Jésus a vraiment été abandonné du Père. Et il a pris sur lui cet abandon que nous méritons tous. Mais Jésus a fait cela par amour pour nous, afin que nous ne puissions jamais être abandonnés du Père si nous avons mis notre confiance en lui. Je vais finir avec cela. C'est comme si Jésus, dans un sens, nous dit: quand vous regardez à ma mort et à ma résurrection, vous réalisez que des temps très sombres peuvent s'abattre sur une personne. Des temps sombres peuvent arriver à des gens qui ne le méritent pas. C'est ce que j'ai vécu, une grande injustice, mais je l'ai fait dans mon amour pour toi. Même que j'ai été abandonné du Père, afin que tu ne le sois jamais de lui. Je suis le Dieu fidèle, le Dieu de l'Alliance. Fais-moi confiance dans les temps mauvais, parce que je suis là avec toi. Amen.